Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici Kelly Méran. Le podcast Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leurs projets de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. J'en profite pour remercier Sophia du compte Instagram Bien ou Bien qui a écrit le commentaire suivant. Que du bon sens, j'écoute, je soutiens, j'aime le ton, le sujet et la vision d'Insensé. Hâte d'en entendre plus. Merci beaucoup, Sophia.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Eh ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose? What's your cause? What's your belief?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bolche.
Réfléchissez.
Décrivez.
La vie a-t-elle un sens?
Qui suis-je?
Il est complètement fou ce mec!
À demain!
Aujourd'hui, je reçois Chiara Condi. Chiara est une femme pétillante, d'origine italo-américaine, entrepreneure et fondatrice de Led by Her. Led by Her, c'est une association dont la mission est d'accélérer, par promo, le parcours entrepreneurial de 30 femmes ayant subi des violences. Comment? En leur donnant des outils, des opportunités et les compétences pour mener à bien leurs projets. Lors d'une conférence à TEDx Barcelone, elle mentionne avec justesse « L'objectif est un passage de la vulnérabilité au leadership. » Une vraie transformation. Ses partenaires vont de Google à Starbucks en passant par le SCP, Orange ou encore Madines. Le parcours de Chiara a eu lieu dans les plus belles écoles. Il compte Harvard, Sciences Po, LSE, la London School of Economics and Political Science. Pendant ses études à Harvard, où elle étudiait la littérature française et l'histoire du XVIe siècle, elle a géré un centre pour SDF, le Harvard Square Homeless Shelter. Et elle crée un programme d'insertion. Ça lui a donné envie de travailler sur des sujets essentiels, comme celui de la pauvreté. C'est plus tard qu'elle s'attaque au sujet des femmes. Elle va nous en parler dans quelques instants. Ces sujets du moment pour lesquels elle intervient comme conférencière, l'entrepreneuriat, les startups, l'innovation au service de la diversité et de la parité femmes-hommes, et enfin, les droits et l'empowerment des femmes. Elle croit en un monde où plus de femmes entreprennent, elle croit en un monde où les droits des femmes sont appliqués, reconnus et importants, et elle croit en un monde où le leadership donne des ailes à celles qui semblent avoir eu un parcours de vie cassé. Chiara, je la vois comme un aimant à belles énergies. Son projet sollicite l'aide de centaines de personnes qui gravitent autour des promos de 30 femmes. L'engagement, la détermination, l'authenticité, la lumière qui se dégage d'elle sont les raisons de sa présence sur le podcast. Je vous laisse découvrir le personnage. Bonjour Chiara, bienvenue sur le podcast Insensé.
Bonjour.
Je suis ravie d'être accueillie dans ton magnifique appartement. Comment tu te sens aujourd'hui?
Je me sens pleine d'énergie. Plein d'énergie parce que je porte beaucoup de projets et puis je vois plein de choses que je veux faire en 2020, donc l'année commence très bien.
Magnifique. Je n'ai pas l'habitude de commencer les interviews par cette question. Je vais commencer par te demander, Chiara, pourquoi tu fais ce que tu fais?
Je pense que c'est très important que, en fait, chacun fasse quelque chose dans son petit monde, à son échelle, pour essayer de changer les choses, pour essayer d'améliorer les conditions autour de soi. Et ça peut être sur plusieurs domaines. Donc moi, je suis active sur les sujets des femmes parce que je sens que tant que femme, on est la moitié de la population et que j'ai pas envie que le monde reste tel qu'il est. Mais on peut s'engager sur plusieurs sujets autour de soi. Et je pense que si on a eu la chance d'avoir fait des études et d'avoir une bonne vie, on a aussi une responsabilité de reconnaître en fait ce qui existe autour de nous et d'améliorer les mondes dans lesquels on habite.
Pourquoi as-tu choisi les femmes ?
Je n'ai pas toujours été passionnée par la cause des femmes, donc ce n'est pas quelque chose qui m'anime depuis mon enfance ou qui m'avait touchée particulièrement. Mais quand j'avais 23 ans et j'ai commencé mon premier travail dans une organisation internationale, la Banque européenne de reconstruction et développement, en fait, ils ont commencé à faire du gender mainstreaming, donc à essayer d'intégrer les questions de genre dans des projets d'investissement. Et ils m'ont demandé de travailler sur la première équipe qu'ils avaient mis en place pour, sur ces sujets.
D'accord.
Et donc, j'ai eu cette opportunité. Et en voyant tous les projets qu'on faisait, j'ai compris qu'il y avait une vraie injustice, en fait, envers les femmes et que les choses n'allaient pas changer, que le temps n'allait pas améliorer les choses et que donc, il fallait attaquer les choses de façon vraiment proactive. Et en fait, ça m'a donné plein d'idées et plein de pistes sur comment le faire moi-même, à mon échelle. Donc, c'était ma première expérience travail.
Si on fait un petit accéléré dans le temps pour arriver à aujourd'hui, où tu es, quels sont les projets qui t'animent ? Quels sont les projets du moment ?
Ce qui m'anime beaucoup, c'est mon association, c'est Led by Her, parce qu'on va passer à une autre échelle et nous avons une nouvelle directrice qui va nous rejoindre. Nous avons un hackathon sur les sujets des femmes qui va avoir lieu en septembre. Nous avons plein de nouveaux événements, des conférences et des choses qu'on va organiser au-delà de notre programme annuel d'entrepreneuriat. Donc ça m'anime énormément parce que ce rassemblement de la communauté que nous avons créé, pour moi c'est un grand moteur pour continuer en fait cette activité et voir les nombres de vies qu'on a changé au-delà de nos bénéficiaires directs. Et pour moi, ça, c'est très important. Et puis, personnellement, j'ai nombreuses conférences et je développe et j'évolue de plus en plus avec une passion pour tout ce qui est la transmission et pour essayer de changer les choses. Comme ça, les problèmes qu'on voit et qu'on guérit chez Led by Her n'arriveront plus. Donc, j'essaie de vraiment ramener ce changement à un plus grand niveau dans la société par mes activités, par mes conférences, par mes contenus. Et dans ce sens-là, j'ai aussi lancé un podcast qui s'appelle The Other Half et qui, en fait, ouvre la voie à des hommes leaders pour parler de la diversité et l'égalité dans leur vie personnelle et professionnelle, pour faire changer aussi les hommes.
Quels sont les sujets des conférences que tu abordes en entreprise ?
Je donne beaucoup de conférences autour de l'importance des femmes pour l'innovation et pour le futur de l'entreprise, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment le sens de pourquoi c'est important de travailler sur ce sujet. Dans l'idée, dans les concepts, on comprend que la diversité est importante, mais si on n'apprivoise pas les sujets plus à fond, c'est difficile de convaincre les gens. Donc en fait, moi je fais beaucoup d'ateliers et de conférences avec l'espoir que les gens s'apprivoisent de ce sujet et cela les motive à devenir consciente, et conscience, ça veut dire aussi responsabilité et engagement dans sa vie quotidienne. Donc, pour faire changer chacun et pour faire améliorer les choses à chacun de nous dans notre propre niveau, dans notre propre univers. Et donc, je fais beaucoup de conférences pour motiver les gens autour de ce changement et aussi, surtout, sur les questions de harcèlement, parce que créer un environnement dans lequel tout le monde peut montrer son potentiel et dans lequel on peut tous réussir, il faut que ça soit un monde de respect et de bienveillance qui accepte la diversité.
Comment on instaure la diversité dans une entreprise qui est très peu sensibilisée ?
Pour moi, les premiers pas, ça va par des objectifs. Donc, fixer des objectifs, c'est très important parce qu'on doit avoir quelque chose vers laquelle on va et quelque chose qu'on peut mesurer de façon concrète. Donc ça, c'est très important. Et en même temps, les objectifs ne font pas changer la culture. Les objectifs ne font pas comprendre aux gens pourquoi c'est important. Donc il faut aussi travailler sur cet aspect très humain en parallèle pour essayer de changer la culture, faire comprendre pourquoi c'est important. Et ça passe beaucoup par l'humain, par des ateliers, par de la sensibilisation. Et en ouvrant la discussion sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui sont souvent très compliqués.
Mmh. Et la première étape en prise de conscience aussi, ouais. J'imagine.
Voilà, et je pense que la prise de conscience, ça passe beaucoup par une prise de conscience de chaque personne sur ce que lui ou elle, parce que les femmes aussi intègrent beaucoup de stéréotypes, et voilà, on porte aussi le sujet. Et donc, c'est ce qu'on peut faire chacun à notre propre niveau, sans devoir forcément attendre que les politiques de l'entreprise changent, que... un manager fasse ci ou cela. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on peut tous agir à notre propre niveau.
Est-ce que tu as des exemples de deux ou trois actions qu'on peut entreprendre de manière individuelle pour changer les choses sans forcément avoir tout un programme ou une initiative en interne qui est instaurée ?
Oui, bah déjà, si on est une femme, on peut prendre la parole. On peut prendre la parole, et puis moi j'ai dit, tu vois, une femme qui négocie son salaire, c'est une femme qui négocie pour toutes les femmes. Donc voilà, c'est réfléchir à chacune d'entre nous, comment est-ce que nous on défend nos droits dans l'environnement de travail, voilà. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Après, je pense que chaque manager peut être consciente en fait de comment est-ce qu'il est avec ses équipes, parce que je pense qu'on a tous des biais qu'on intègre, et donc il faut faire attention, et si on est consciente, en fait on fait attention à notre propre comportement avec les personnes, nos collègues, avec des partenaires, avec des stagiaires, donc à tous les niveaux. Et pour moi, beaucoup de ça en fait commence avec une sensibilisation, parce que je suis convaincue qu'en fait, si les problèmes existent aujourd'hui, ça n'est pas de mauvaise intention, ça n'est du fait que il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension du sujet, et les personnes ne peuvent pas être responsables d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Donc moi, je vois beaucoup d'espoir voilà, autour du fait que si on ouvre la parole, si on apprend aux gens pourquoi c'est important, les gens vont l'intégrer, ils vont le comprendre, et ils vont aussi se comporter de façon différente.
Donc tous ces projets d'intervention, de conférences et d'ateliers que tu entreprends, c'est aussi des choses qui vont fueler, qui vont alimenter les projets Led Buyer. Led Buyer, l'association, elle est partie de quoi ? Elle vient d'où ?
Led Buyer, c'est une association qui a aujourd'hui 6 ans, donc qui existe depuis un moment, et c'était parti d'un, je pense que c'était un acte à l'époque quand je l'ai créé, un peu militant, de se dire qu'on va parler d'un sujet qui est dans la vie personnelle des femmes, et on va en parler dans la sphère professionnelle, parce que les violences ont un impact sur la vie professionnelle des femmes, et qu'on va les aider à se reconstruire dans leur vie professionnelle aussi. Et donc ça, c'était très original, parce qu'il n'y avait pas d'association qui était sur ces créneaux-là, les créneaux de reconstruction, et qui pour moi est très important, parce que la reconstruction casse aussi cette idée des victimes, ça redonne l'autonomie, donc ça permet aussi de terminer en fait ce cercle vicieux de victimes qui doit subir quelqu'un, etc. Donc ça permet de sortir de ça, et ça apporte aussi une nouvelle confiance et de nouvelles possibilités aux femmes. Et pour moi, c'était important de donner pas juste des possibilités, mais des nouvelles clés pour une nouvelle vie. Donc pour moi, Led Buyer, ça en est d'une idée de on devient d'abord CEO de sa propre vie, donc on s'approprie de sa vie, qui souvent a été enlevée à ces femmes. Et donc, c'est une réappropriation de la vie, c'est de retrouver soi-même et de retrouver à l'intérieur de soi-même quel est son projet. Et donc, voilà, pour moi, les projets, c'est secondaire, c'est la transformation de vie qui est importante. Donc, il y a certaines femmes qui vont poursuivre des projets dans un domaine de l'entrepreneuriat, et il y en a d'autres qui vont trouver des opportunités de travail qu'elles n'auraient jamais trouvées sans nous. Donc pour moi, tous les scénarios sont bons. Au moment où on a ouvert des portes qui étaient fermées à ces personnes avant.
Leur redonner la force d'être actrice de leur propre vie, qu'elles entreprennent leur vie au sens large. C'était une de mes prochaines questions, de savoir si tu avais des chiffres sur la part de femmes qui arrivaient à vivre des projets, et même si ces chiffres-là étaient après tout l'objectif final de l'association ou pas nécessairement.
Pour moi, c'est la transformation qui est importante. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, est très utile parce que l'entrepreneuriat nous apprend à faire de nouvelles choses, à gérer des projets. Donc, dans ce qui est l'enseignement dans l'entrepreneuriat, on apprend plein de choses qu'on peut utiliser dans tout dans la vie. Et donc, c'était vraiment cette autonomie et ce leadership que nous, on voulait transmettre aux femmes par un programme d'entrepreneuriat. C'est clair que si elles choisissent de devenir entrepreneurs, nous, on continue à les aider et à les suivre. Et à la dernière évaluation qu'on a faite, il y avait 40% qui étaient toujours en train de poursuivre leur projet d'une façon ou l'autre. Mais si elles n'ont pas envie de continuer par la voie entrepreneuriale, pour nous, l'important, c'est que ça ouvre de nouvelles possibilités professionnelles. Donc, ça peut être dans les domaines du salariat, ça peut être en entreprise. À partir du moment où elles ont ce choix qu'elles n'avaient pas avant.
Il y a un témoignage assez touchant que j'ai lu sur les réseaux de Light by Her que je voudrais partager. Donc, une des femmes qui a suivi le programme, elle dit « C'est le seul endroit où les gens que je rencontre veulent m'emmener plus loin que là où ils ont été eux-mêmes. » Je trouvais ça assez touchant. L'objectif est d'éveiller le leader qui est en elle. Comment est-ce que vous faites ça concrètement ?
Le leadership, pour moi, c'est de faire retrouver à chaque personne ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Parce que souvent, on essaie de voir à l'extérieur tout ce qu'on n'a pas. Et le leadership authentique, ça vient de l'intérieur. Donc, c'est comment est-ce que nous, on peut apporter avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a fait, une nouvelle perspective, quelque chose de nouveau au monde. Et ça, je pense que toute personne est capable de le faire. Toute personne a quelque chose à apporter au monde. C'est aider ces femmes à identifier, grâce à leur vie, grâce à leur passé, qu'est-ce qu'elles ont envie d'apporter, de redonner. Et pour moi, ce qui est très beau dans l'aide, c'est cette idée de la transformation. C'est-à-dire qu'une fois que les femmes ont fait les programmes, elles sont complètement transformées. Donc, si elles deviennent entrepreneurs ou pas, elles sont quand même transformées. Et leur vie ne sera jamais la même. Donc, il y a un avant et un après l'aide by her. Et ça, c'est très, très important. Après, à côté de ce changement qu'on suscite chez la personne, je pense qu'il y a aussi chez nos bénévoles une envie de donner et de pousser les femmes à aller le plus loin possible dans leur chemin. Et je pense que ça, c'est très, très motivant parce que souvent, quand on a vécu des choses difficiles, et on doit se reconstruire, c'est difficile de trouver cette énergie ou de voir ce potentiel en soi de ce qu'on pourrait être capable de faire. Donc je pense que la communauté Led by Her, avec sa bienveillance, avec ses talents, avec tout ce qu'elle offre, elle permet en fait aux femmes d'aller si loin parce que on les aide à se réapproprier de ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles.
Une chose qui m'a toujours fascinée autour de Led by Her, que je suis depuis un moment sur les réseaux, c'est toutes les personnes, que ce soit des individus, des partenaires, des collectifs qui vont prendre parti à la cause. Comment est-ce que tu as réussi ou que vous avez réussi à fédérer autant de personnes sur la cause ?
Je pense que les personnes autour de Led by Her pour les histoires de transformation qu'on crée. Donc, c'est cette transformation qui est très puissante. C'est avant et c'est après. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les gens viennent parce qu'ils sentent qu'ils peuvent faire partie, même en donnant 3 heures ou un après-midi ou une matinée, ils peuvent ensemble apporter ces changements de vie pour quelqu'un. Et c'est ça pour moi l'idée qui est très puissante derrière l'Edbacher. Et on sent qu'en apportant sa petite goutte d'eau, on fait rouler une grande machine et on voit les résultats en fait de cette grande machine dont on fait partie. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est la beauté de l'Edbacher, c'est les niveaux micro à lesquels on peut donner, mais c'est aussi les niveaux macro auxquels on change la vie de chaque personne qui passe par les programmes et qui est transformée par les programmes.
Et qui sont les bénévoles qui sont derrière ?
Il y a énormément de bénévoles, donc on a probablement 200 bénévoles. Et les bénévoles, ce sont des personnes qui sont des professionnels et qui ont rencontré moi qui ont connu l'association par les médias, donc qui arrivent vers nous. Surtout parce que je pense que notre message d'espoir parle beaucoup aux gens, surtout dans les périodes difficiles dans lesquelles on vit. On veut s'engager pour sentir qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut faire une différence dans notre communauté. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui s'engagent pour et nous aider à faire cette différence et qui sont des professeurs des écoles de commerce, des coachs, des professionnels qui viennent enseigner les cours ou qui vont mentorer les participantes ou qui vont nous aider à créer les événements. On a aussi beaucoup de collaborateurs d'entreprises qui participent à des activités qu'on organise avec les entreprises. Donc, il y a énormément de niveaux d'engagement et d'opportunités de bénévolat au sein de l'association, ce qui permet à beaucoup de personnes de s'engager auprès de l'association à leur niveau. Et on a aussi la chance que sur 5 ans, nous avons eu un grand taux de bénévoles qui reviennent et qui souhaitent continuer à donner à l'association parce que ça leur a apporté énormément aussi.
Il y a beaucoup de parties prenantes, donc de bénévoles, de partenaires, de femmes aussi qui ont fait partie de ce programme. D'ailleurs, je me posais une question. Combien de promos il y a eu jusqu'à maintenant ?
Il y a eu 5 promos.
Cinq promos, donc une promo par année. Mm-hmm. D'accord. Je me demandais, du coup, avec toutes ces parties prenantes et cet impact, est-ce que toi, tu as déjà eu des doutes dans ce projet ? De se demander où est-ce que ça va ? Comment est-ce que je tiens ce projet ? Des difficultés à le faire vivre ?
Je pense que la partie la plus difficile, c'était de continuer, d'arriver à une taille critique et de faire continuer son projet. Parce que l'évolution n'est pas facile. Donc, le lancement n'est pas facile, mais après, l'évolution n'est pas non plus. Et pour nous, ce qui était aussi difficile, c'était de trouver les financements pour continuer. Et à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on continuait à faire des choses, on continuait à avoir des bénévoles, on continuait à faire des événements et qui devenaient toujours plus grands. Et on avait toujours les mêmes ressources. et donc, je pense que dans la vie associative, il faut aussi reconnaître que quand on arrive à une taille critique et que les activités augmentent, on doit aussi augmenter les temps qu'on doit donner pour organiser tout ça, pour coordonner tout ça. Et donc, pour nous, c'était un grand apprentissage après 5 ans de se dire on doit mettre des systèmes en place, on doit changer pour continuer à évoluer.
Et toi, dans cette histoire ?
Oui, et moi, dans cette histoire, je pense que pour moi, ça a été une évolution aussi, parce que j'ai beaucoup appris grâce à l'association. Je maîtrise beaucoup de sujets que je ne connaissais pas du tout avant de créer l'Edbacher. J'ai rencontré énormément de gens et je pense que chaque chose que j'ai vécue, positive, négative, sur ces passages voilà, de 5 ans, ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a fait aussi évoluer et je pense que ça m'a fait aussi prendre une place différente face à l'association, parce que je pense que j'avais plus envie à un certain moment, en faisant ce que je faisais avec l'association, aussi d'essayer de faire évoluer plus les choses dans la société et pas juste de m'occuper de mon association. Donc voilà, de les grands mondes, les mondes l'extérieur, ça a commencé de plus en plus à m'intéresser aussi. Mais je pense que c'est une évolution qui est naturelle, parce que les projets dans les années, les projets évoluent aussi. Donc on met en vie un projet et les projets, ils prennent forme et ils évoluent. Et c'est pareil pour nous. On n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes après 5 ans, donc
bien sûr.
C'est naturel que on a des envies, on a une vision qui est différente et qui est certainement nourrie, mais qui est certainement nourrie par tout ce qu'on a fait dans les passés.
Mmh. Et d'où le fait que tu as entrepris d'animer des conférences et ateliers en tout genre pour élargir un petit peu ton champ d'action. D'après toi, c'est quoi la différence entre une femme qui entreprend versus un homme?
Je ne veux pas tomber dans les stéréotypes, parce que je pense qu'il y a, il y en a beaucoup déjà, et on doit faire attention quand on dit que les femmes sont comme ça ou les hommes sont comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, d'après les conversations que j'ai eues, les femmes que j'ai interviewées, il y a une sorte forte de manque de crédibilité de la part des femmes. Et donc c'est très important, parce que on a des projets, on a des idées, mais on n'ose pas toujours l'exprimer. Et donc je pense que s'il y a un taux d'entrepreneuriat des femmes qui est plus faible que celui des hommes, ça veut dire que quelque part il y a une inégalité. Donc je pense qu'il faut faire des choses pour corriger cette inégalité, des programmes qui encouragent l'entrepreneuriat féminin pour rééquilibrer les voies. Je pense qu'il n'y a pas forcément une différence entre programmes femmes et hommes, mais on voit que, par exemple, dans les incubateurs qui sont pour femmes, on a 100% femmes. Et dans les incubateurs qui s'appellent mixtes, il y en a 10%. Donc, ça veut dire que, quelque part, dans ce que est la norme de notre société sur ce qui est mixte, ça veut dire que c'est fait pour les hommes, même si ce n'est pas affiché. Donc, pour moi, il y a déjà une injustice. Donc, pour moi, les programmes des femmes, c'est pour accélérer les progrès et pour corriger cette injustice. Et c'est la même chose avec les quotas. C'est pourquoi mettre les quotas si les femmes seraient capables? Parce qu'il y a un bien inconscient dans tout ce qui est recrutement ou choix de l'être humain. Et donc, les hommes vont choisir des hommes. C'est automatique. Et donc, si les hommes ont des positions de pouvoir, ils vont faire monter que les hommes dans ces positions de pouvoir. Donc, les quotas, c'est pour corriger, en fait, ce qui est l'erreur naturelle, l'erreur humaine naturelle. Et je pense que c'est simplement ça. C'est que dans notre histoire, dans un moment où on peut se dire, c'est juste CEO, c'est un... Voilà, on voit les femmes CEO parce qu'elles sont très peu. On voit les femmes en politique parce qu'elles sont très peu. Donc, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les mots femmes. Je pense aussi de façon pour l'encourager. Parce que les femmes sont très représentées et sont aussi peut-être les pionnières et les premières à aller dans des domaines où elles n'étaient pas présentes auparavant.
Je saffais un petit peu sur ce sujet des femmes qui ont subi des violences, parce que c'est quelque chose qui est très présent ces derniers temps dans les médias. Donc, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint, sont de 250 000. On a aussi beaucoup de choses autour des violences faites aux femmes qui a été mis en lumière par un projet porté par Marguerite Stern. Donc avec tous ces affichages qu'on a vus notamment dans la ville de Paris, avec plus de 250 affiches. Donc c'était ces feuilles A4 avec de la peinture noire, avec des messages assez forts tels que « Elle l'a quitté, il l'a tué ». Toutes ces initiatives, est-ce que d'après toi, elles font bouger les lignes ? Est-ce qu'il y a une manière particulière de militer pour une cause ?
Non, moi je pense que chacun fait ce qu'on fait à notre propre niveau et c'est comme ça que les choses vont changer, par une énergie collective. Mais je ne pense pas qu'il y a une solution ou une chose qui va faire changer les choses. Et ça, je pense que c'est impossible. Parce qu'il faut changer la culture, il faut changer la nature humaine, il faut changer des choses qui sont très, très profondes. Et les choses qui sont profondes à changer et complexes n'ont pas des solutions simples. Et donc, je pense que si chaque personne agit à son niveau, on va faire changer les choses. Donc, peut-être que quelques personnes répondent à l'affiche, d'autres personnes vont répondre à un message de l'association et d'autres encore vont répondre à autre chose. Donc en fait, tant que ça parle aux gens, tant que ça fait changer les choses, je pense que c'est positif. Et les plus on aura, les mieux ça sera.
Mieux ça évoluera. Que doivent faire les hommes dans tout ça ? Qui est un peu le sujet de ton podcast.
Les hommes aussi vont devenir acteurs et acteurs conscients, en fait, parce que si on peut pas s'attendre que les hommes changent sans bien comprendre le sujet. Donc je pense que il y a aujourd'hui un grand effort pour essayer de faire mieux connaître ces sujets là aux hommes, et en fait les faire connaître ces sujets là aux hommes, ça veut aussi dire les sensibiliser au sens large et aussi les faire devenir acteurs de ce changement. Parce que je pense que chacun de nous a des femmes qui sont des collègues, on a des femmes dans notre vie, ça peut être notre propre femme, ça peut être notre propre fille. Donc déjà, si on fait une différence dans notre façon d'agir dans notre propre vie, là, on peut créer un changement qui est plus grand que nous. Donc, ce qui est intéressant, selon moi, c'est de porter chaque personne à commencer ces changements. Commencer ces changements-là par sa propre vie.
Quelle forme ça peut prendre, par exemple ?
Pour moi, c'est... En fait, on a beaucoup de stéréotypes inconscients qu'on a intégrés. Et donc, une fois qu'on en devient conscient, on peut déjà commencer à se questionner. Mais, par exemple, je vais recruter quelqu'un. Et on va voir une femme devant soi. Est-ce qu'on va faire des jugements automatiques ? Ce sont des stéréotypes. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut être conscient qu'on est en train de rentrer dans un stéréotype ? Et donc, une fois qu'on est conscient, c'est comment est-ce qu'on peut le dépasser ? Parce que si on comprend les arguments derrière la diversité, on comprend très bien que, en fait, avoir une diversité de perspectives, une diversité d'opinions, une diversité de background, cela, c'est une richesse pour son entreprise.
Est-ce que tu as un exemple d'une prise de conscience que tu as eue toi-même sur un stéréotype ?
Et j'en ai beaucoup, mais quelquefois je suis très étonnée parce que je pense que j'ai travaillé dans pas mal de secteurs et quelquefois je travaille sur un nouveau secteur et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes dans ces secteurs et donc il n'y a pas de problème. Et en fait, tu découvres que ce n'est pas ça. Donc en fait, qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, qu'il y a beaucoup de soucis. Donc en fait, je pense qu'on s'est fait tous beaucoup, beaucoup de stéréotypes. Et je pense que c'est très puissant d'arriver à se débarrasser en fait de tout ce qu'on s'imagine.
J'ai une autre statistique que je trouvais intéressante qui a été publiée sur les réseaux sociaux de Led by Her, qui est une étude de Global Gender Gap Index. Une statistique qui est un peu déprimante, donc attention, qui dit que l'égalité femmes-hommes serait normalement atteinte d'ici 100 ans, 99,5 années. Ils prennent comme critères des éléments comme la place dans le monde du travail, l'éducation, la santé ou encore le pouvoir politique, pour en citer quelques-uns. T'y crois ?
Moi, j'avais vu que Davos avait affiché 217 ans.
217
attendre, mais... ouais. En tout cas, ça ne sera pas dans notre vie, mais moi, je pense qu'il... est-ce que j'y crois ? Oui, j'y crois, mais je pense qu'on peut l'accélérer. Et donc, c'est en faisant des choses pour briser les réalités qui existent aujourd'hui qu'on va y arriver. Donc, et je pense qu'on peut l'accélérer. On peut l'accélérer avec des quotas, on peut l'accélérer en faisant des programmes pour les femmes, mais on peut l'accélérer juste si on est proactif. Si on attend que ça change, ça ne va pas changer. Et j'ai envie de dire que si on voit les générations les plus jeunes, elles ont les mêmes problèmes et les mêmes stéréotypes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, dont je n'étais pas au courant, parce que je pensais qu'en fait, beaucoup de ces sujets-là auraient peut-être disparu avec le fait que certains dinosaures auraient pris leur retraite et... voilà, ça aurait disparu de la scène. Mais apparemment, non. Apparemment, les jeunes ont les mêmes problèmes, ils intègrent les mêmes choses et les mêmes sujets. Donc, la société, si on ne la change pas de façon proactive, elle se reproduit. Elle ne change pas. Elle n'évolue pas. Donc, oui, je pense que c'est tout à fait possible qu'on a ces statistiques parce qu'on n'a pas garanti, on n'a pas garanti que ça va changer. Mais bon, je pense qu'il faut que chacun fasse au mieux dans son coin pour essayer de changer les choses. Et peut-être qu'on arrivera à réduire en fait, ce temps.
S'il y avait un programme ou un bout de programme que tu pourrais intégrer dans l'éducation nationale en France, qu'est-ce que tu y mettrais ?
Aujourd'hui, il y a plein de choses que je mettrais. Non, mais je pense qu'il faut, il faut changer les systèmes pour faire apprivoiser les sciences et les maths par les femmes aussi, par les jeunes filles. Donc, je pense que les STEM dans les écoles, en commençant du niveau de l'école, c'est très important. Apprendre à coder et tout ça, je pense que c'est très important que les filles soient exposées au même niveau que les garçons. Parce que sinon, c'est impossible après de changer les choses. Ben, c'est très difficile. Je pense aussi que l'enseignement de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un très bon outil de vie en fait, qu'on peut utiliser dans tout ce qu'on fait. Et on vit dans une société qui est perpétuellement en changement. Et donc, on doit continuellement s'adapter à des nouvelles conditions, à des nouvelles situations. Et que l'entrepreneuriat peut beaucoup nous apprendre, en fait, sur ces sujets-là. Et je suis étonnée que l'entrepreneuriat ne soit pas intégré dans des programmes d'éducation. Et on vit aussi dans un monde où il y aura moins de salariats et plus de gens devront continuer à inventer et réinventer leur métier. Donc, pour moi, c'est essentiel. C'est aussi essentiel pour l'économie demain.
Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui cherche à mettre plus de sens dans sa vie et aligner un peu plus ce qu'il est avec ce qu'il fait ?
Je pense que le sens, ça, on peut le trouver juste à l'intérieur de nous. Donc, c'est différent pour chaque personne, mais c'est reconnecter à soi-même et trouver ce qu'on veut faire. Ce qui nous fait vibrer. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut faire aussi chez Led by Her avec tous nos participantes. Et c'est pour ça aussi que le développement personnel est une brique essentielle dans les programmes. Parce qu'on pense que si on trouve un projet qui vient de l'intérieur de soi, ça va être beaucoup plus fort et on va être beaucoup plus motivé pour poursuivre surtout dans les moments difficiles.
Et y a-t-il une méthode ou un exercice que tu as en tête à recommander ?
Je pense forcément je pense pas qu'il y a une méthode, un exercice à faire. Je pense qu'il faut, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est d'être en activité, donc essayer plein de choses. Et on sent en faisant ce qu'on aime. Et c'est pour moi ça qui me touche, qui réveille mon intuition et qui me dit j'ai envie d'aller plus loin ou j'ai plus envie de faire ça. Donc, et après, je pense que quand on est en activité, quand on lance des choses, une chose amène à l'autre, et puis un bout de neige, voilà, on arrive là où on n'aurait jamais imaginé arriver.
Quelle est ta plus grande peur ?
Ma plus grande peur, c'est de ne pas arriver à toucher toutes les personnes que je veux toucher. J'ai peur que ça reste petit et que j'arrive pas à le transmettre.
Qu'est-ce qui est sacré à tes yeux ?
Pour moi, c'est le respect des autres. Pour moi, les relations sont très très importantes et c'est toutes les personnes que j'ai autour de moi et pour moi, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir.
As-tu un motto, une phrase inspirante qui t'aide à te lever le matin ?
Oui, ce que je me répète souvent, c'est tout est en moi. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on pense qu'il faut faire les choses des mains et qu'il y a un autre jour où on aura plus de ça, où on sera plus préparé, où on sera mieux, voilà. Mais en fait... chacun peut commencer avec ce qu'il a. Et ça, c'est j'essaie de me rappeler de ça et de regarder et de voir à l'intérieur de moi toute la richesse que j'ai au lieu de tout ce que j'ai pas. Parce que c'est très facile de mesurer tout ça.
De voir tout ce qu'on n'a pas, bien sûr. Est-ce que tu as une routine, quelque chose qui t'anime quotidiennement ou de manière hebdomadaire ?
Non, j'aimerais bien avoir une routine, mais je suis très mauvaise pour ça. Donc, je n'ai pas beaucoup de discipline dans ma vie, dans ma vie. Et donc j'aimerais bien, cette année, travailler un peu sur la discipline, sur mettre en place des choses pour cette année.
Il y a d'ailleurs, j'aurais dû corriger le mot, mais je crois que c'était sur le podcast de Wake Up Conversation où l'interviewait quelqu'un. Elle parlait justement de se séparer du terme de routine pour le transformer en rituel. Routine, comme un poids qui est associé.
Négatif.
Ouais, une charge en fait, un devoir qu'on n'a pas forcément envie de remplir, versus le rituel où c'est un rendez-vous avec soi-même et on vient y chercher quelque chose, on y pose une intention. As-tu une personne inspirante ou un mentor qui te suit ?
Je n'ai pas forcément de mentor ou de personne inspirante là au sens strict, mais je pense que pour moi, un grand moteur d'encouragement ont toujours été mes parents.
Pourquoi ?
Parce qu'ils m'ont toujours poussée, ils ont toujours cru en moi. Ils m'ont toujours donné l'énergie et l'encouragement pour aller vers l'avant.
D'accord. À présent, peux-tu nous partager deux vérités et un mensonge te concernant ? Ne nous dis pas lequel est lequel.
J'ai commencé Led by Her en 2010. J'ai 33 ans et ma prochaine conférence sera dans le secteur des paiements.
Donc habituellement, j'ai Ashanti avec moi, qui n'a pas fait le voyage aujourd'hui. C'est la baguette magique. Il va donc falloir que je te donne une baguette magique imaginaire. Tu peux la visualiser. Mm-hmm. Hop, je te la donne.
Merci.
Hop là. Et l'idée avec cette baguette magique, c'est que tu puisses faire un vœu. Un vœu d'un souhait pour que le monde change.
Mon souhait, c'est que c'est qu'on arrive à tous à avoir le un peu d'espoir, parce que ça manque beaucoup aujourd'hui. En fait, je pense que il faut avoir de l'espoir pour se dire que on peut changer les choses autour de nous, et que chacun retrouve en fait ce qu'il ou elle peut faire autour de soi. Et puis je pense que déjà ça ferait des miracles s'il y a des millions de gens qui se réveillent
et qui se posent la question.
On pourrait faire beaucoup 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 autour de nous, et ça c'est pour l'égalité, mais c'est vrai pour tous les sujets comme l'environnement. Voilà, si chacun de nous devenait responsable et acteur, on pourrait faire une énorme différence.
Je te rejoins grandement là-dessus. J'aimerais te poser une dernière question. Il y a une interview que tu as fait sur Madame Figaro où tu dis, je cite, « Il n'y a rien de pire que le temps pour tuer les bonnes idées. » Pourquoi tu dis ça?
Je dis ça dans les contextes de l'entrepreneuriat, mais ça peut s'appliquer à d'autres contextes aussi. Mais je pense que les choses arrivent juste quand on est dans la dynamique et quand on est dans l'activité. Donc, quand on est entrepreneur, on doit voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, la plus petite chose qu'on peut faire avec les moyens qu'on a, avec tout ce qu'on a déjà, sans chercher autre chose. Et quand on fait cette petite action peut nous ouvrir des grandes portes, des petites portes, mais ça nous met sur les chemins. Mais si nous, on n'arrive pas à se mettre sur ce chemin, rien ne peut nous arriver. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Chiara. Si le sens est important pour vous, trois manières de m'aider à faire grandir le podcast Insensé. La première, notez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. La deuxième, partagez sur tous vos réseaux sociaux. Et la troisième, suivez-moi sur Instagram. À dans 2 semaines! Insensé. Comprenez bien le sens, qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens, non, ne me brossez pas dans le sens du poil. Faites appel à vos 5 sens. Mettez-vous sans dessus-dessous. Ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.